I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin.
Bienvenue, bébé.
Hey,
bienvenue au podcast.
Merci de l'invitation. Je suis content de te rencontrer officiellement.
Ah, moi aussi. Ouais, ça va être du fun. J'ai vu ton nom beaucoup de fois. Tu sais, je te connaissais de Periphery, de la scène, mais je sais pas, avec au bordel ou des petites choses que je faisais, j'avais jamais la chance de te rencontrer.
Ouais, on n'était pas ces mêmes line-up.
Ou... Jamais, alors j'ai trouvé, ah, oh, ça c'est une opportunité.
Ouais, vraiment. Mais je suis content, je te connaissais avec, surtout avec Mike et Sous-Écoute et tout ça. Mais effectivement, je pense qu'on joue pas dans les mêmes soirées. Fait qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser juste pour au moins chiller dans une loge puis faire comme, ah, nice, ok, c'est ça que tu fais. Puis...
Ouais, mais là, on chill ici.
Ben ouais, mais j'avais un bon feel déjà. C'est pour ça que j'ai dit oui. J'étais comme, ah, oui, c'est sûr et certain que je suis là. Puis...
Puis on a pris le bureau. Tu sais, ça, c'est le bureau du président.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Moi, j'étais habitué à l'autre bureau, l'ancien bureau de Gilbert, là, qui était comme une espèce de...
Ça, c'est pas un bureau. Ça c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est une condominium.
Ouais, mais c'était le bureau de Gilbert avant. Là. C'était l'ancien...
Oui, un balcon.
Oui, il y a un balcon, il y a une chaise louche que tu sais pas ce qui s'est passé dessus. Il y a non, des divans. Puis...
Mais c'est grand. Je pense qu'avant, tous les grands gérants, il y avait des choses comme ça.
Ouais.
Ici. Mais maintenant, à cause qu'il y a plus de personnes qui travaillent, tu as besoin de splitter tout. Alors, je pense que c'est devenu comme...
C'est le département spectacle.
Ouais, c'est tout un département. Imagine, c'était un bureau de quelqu'un, puis maintenant, c'est tout un département.
Ouais, c'est tous les employés de Juste pour Rire, production de spectacle.
Ça, c'est cool. Ouais. Ils font beaucoup de choses ici.
Mais Juste pour Rire, c'est énorme. Là. Puis le building, on dirait qu'il a été bâti comme un petit bout à la fois. On dirait qu'ils ont fait comme, bon, OK, on commence avec ça. Fait comme, hey, ça nous prendrait un département festival. OK, bon, ben on va. J'ai trouvé du bois chez nous, on va faire une autre section.
ouais, ça a vraiment l'air comme ça. Puis je veux savoir, parce qu'il y a une grande archive en bas.
Ouais.
Je sais pas s'ils ont des vidéos. Ça serait malade d'avoir des vidéos du début, des années 80, de comment c'était. Comment ils ont buildé tout ça, ils ont construit les nouvelles choses. Je veux voir s'ils ont du archive footage, parce que ça ferait une bonne documentaire.
C'est clair, probablement, tout ouais. Ça. Ben, il y avait à côté, qui est maintenant le cirque Les Sept Doigts de la Main.
C'était un musée, non?
Ça a été un musée au début.
Ouais.
Après ça, c'était le studio Juste pour Rire, qui était un stage vraiment le fun. C'est là qu'ils tournaient les mercredis Juste pour Rire au début.
Oh.
Après ça, ça a transféré au Café Campus. Puis, à un moment donné, ils ont vendu, puis c'est devenu les Sept Doigts de la Main, dans le fond, le cirque. Là.
Ouais,
puis
ouais.
Ils s'entraînent là, puis ils font. C'est là qu'ils font les tournages de le prochain stand-up, l'émission.
Oh, c'est juste là?
Ouais.
Ils font je savais pas.
Ils font un setup de studio, genre là-dedans, puis ils tournent ça là.
C'est vrai, filmé au Café Campus. J'avais déjà fait, j'avais loué le Café Campus en 2014, je pense.
Ah ouais?
Oui, en anglais. On avait fait une show là-bas. Puis je me souviens, il y avait le troisième étage puis le deuxième étage.
Le petit campus?
Ouais, le petit campus. Ouais, ah, c'était fun là-bas.
Moi, j'ai fait le petit en musique.
Tu joues de la musique?
Je jouais de la musique.
Dans une band?
Ouais. Avant de faire de l'humour, j'ai commencé comme musicien. C'est comme ça que j'ai appris à faire de la scène puis de la tournée. Ouais.
Quel type de musique?
Moi, je suis pas mal... J'écoute plein d'affaires, mais je viens du métal puis du gros rock, mettons. Avec Elephantine, le band que j'avais, je jouais du post-rock qui était dans le vibe de Radiohead, Carquois et compagnie. Là. C'était très.
Okay.
Dans le fond, j'étais un hired gun. Là. C'était juste. Ils m'ont juste appelé. On n'a pas de bassiste, puis je suis embarqué dans le band pour 2 ans. Puis.
Fait des tournées.
Oui, ouais, on a tourné, on était à la radio un peu. Puis après ça, j'ai lâché ça. Je suis parti à l'université à Québec pour étudier un programme qui se donnait juste là.
C'était quoi le programme?
C'était sciences, technologies, agroalimentaires. C'est de la chimie, de la biochimie structurelle, de la chimie organique. Puis
tu voulais faire ça dans ta... Ouais. Comme tu... Oh, okay.
Ouais, j'allais devenir... dans le fond, j'allais travailler dans l'industrie de la transformation alimentaire. Fait j'allais... Tu sais, tout ce qui est entre la ferme puis l'épicerie, cette business-là, il y a comme plein d'affaires que tu peux faire. Tu peux créer des arômes, tu peux créer des saveurs, tu peux faire des assaisonnements, tu peux travailler sur un agent de conservation si tu veux. Tu peux... Tu sais, comme plein de trucs à faire. J'aurais travaillé là-dedans. Puis j'ai lâché après un mois et demi, puis j'ai commencé à faire du stand-up à Québec.
T'as fait des open mic, puis t'es comme, ah, fuck, c'est fun.
J'ai fait un concours. Ouais, j'ai vu comme un concours. Une amie journaliste qui nous avait interviewé quand on faisait de la musique, j'avais rencontré là, savait que j'aimais l'humour. Puis j'avais commencé à prendre des notes dans un cahier pour aucune raison, parce que je pensais pas faire d'humour, mais j'avais comme commencé à juste noter des trucs que je trouvais, genre, qui fitaient pas, qui étaient pas logiques. Là.
Ouais.
Fait, j'allais à la pharmacie, puis là, je regardais tout. Là, je faisais, OK, il y a une odeur de brise d'océan, glacier, puis avalanche, puis ça sent pas la même chose, mais les trois, c'est de l'eau sous une forme différente. Là, j'étais comme, OK, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, puis j'essayais de faire des jokes avec ça. Puis elle m'a dit, il y a un concours, envoie un démo. J'ai envoyé un démo, j'ai été pris. Puis quand j'ai fait le concours, après le premier passage, dans le fond, j'ai eu une job à radio comme writer. une radio de Québec.
OK. Puis ça me payait. Tu writais des jokes pour les hosts? Oh.
Puis je le faisais en onde aussi, je faisais des petits sketchs. Fait que tous les jours à 9h, j'étais là. Puis ça me permettait de me pratiquer, d'écrire des jokes, puis d'être discipliné à tous les jours. Puis j'étais pas payé au début, puis à un moment donné, ils ont commencé à me payer. Fait que après ça, j'ai fait les auditions de l'école, je suis rentré à l'école de l'humour, puis j'ai. À partir de là.
Revenu à Montréal?
Ouais. Je suis revenu à Montréal, en fait.
Holy shit! Ouais.
Puis là, j'ai lâché ma job de jour. Ben, en fait, je suis sorti de l'école au mois d'août, au mois de mars, je faisais ça à temps plein. Puis je fais ça depuis 12 ans, dans le fond, à temps plein.
T'as rencontré-tu des amis à l'école que t'as encore les mêmes amis, puis vous faisiez du stand-up ensemble?
Ah oui, ben oui. Ouais, hein? Tout du monde. Dans mon année, là, qui est les plus connus, t'as Pierre-Luc Pomerleau, Adib Al-Khalidé, Simon Delisle, Charles Beauchesne, Jérémy Larouche. Ça, c'est les plus. C'est ceux qui en font encore aujourd'hui, là, avec qui je fais du stage, puis on se croise, puis on est tout le temps contents. Là.
Fuck!
On a grandi ensemble, là. On a commencé ouais, ça, à l'école.
C'est quoi, 2 ans?
Ça dure 2 ans, ouais.
2 ans, puis est-ce que tu penses qu'à l'école, t'as appris comment écrire des jokes, setuper, ou t'avais déjà ça? T'avais l'instinct déjà?
J'avais l'instinct beaucoup, honnêtement. Au début, moi, j'étais un comic de liner. Je faisais juste des liners parce que j'avais aucune technique de scène. Je savais pas comment jouer. Je savais pas comment comporter sur un stage. Moi, j'arrivais de la science. C'est juste que je pensais à des trucs que je trouvais drôles. Je comprenais comment les formuler. Puis, fait que ça, pour moi, c'était comme une équation. C'était tu mets sa prémisse, tu mets ce mot-là, là, puis ton punch, tu le mets à la fin le plus possible. Puis là, ça rit. Fait que juste. Tu peux la lire, puis c'est drôle. Fait que n'importe comment je la dis, ça va rire. T'sais. J'avais pas besoin de me baser sur le delivery, l'énergie, tout ça. J'avais aucune connaissance de ça. Mon premier show, pour te donner une idée, là, c'est PA Méthode qui animait justement, c'était un concours dans un steakhouse de marché aux puces à Québec. Là. Genre, puis, le monde venait en motocross. Là.
OK, ouais, genre, c'est.
Des One Piece, manger un steak, puis écouter mes jokes. Là.
C'est le type de public que t'as besoin, ouais.
Exact, là, c'était dégueulasse. Puis, il y a juste un spot sur la scène qui éclaire un pied de micro avec le micro dessus. Fait que moi, je rentre sur scène.
Alors, si tu bouges,
ben, si tu plus. Sors de l'éclairage, on ne ouais. te voit plus. Tu sais. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le micro, puis au lieu de prendre le pied de micro puis de sortir de l'éclairage, puis de rester dans la lumière, j'ai laissé le pied de micro là, puis moi, je suis sorti de l'éclairage dans le noir, puis j'ai fait mes 12 jokes. Fait que personne ne m'a vu. Tout le monde a juste vu un pied de micro éclairé, puis entendait des liners, puis c'était ça, là, tu sais.
Il y a quelque chose quand même drôle.
Oh oui, vraiment. Là, c'était...
Moi, je pense que si j'étais dans le public, je recommençais. Il y a quelque chose de drôle avec ça.
Mais honnêtement, j'ai gagné cette ronde-là.
Tu vois?
Imagine l'autre.
Ah ouais.
Moi, j'ai gagné comme ça. Là. Imagine l'autre gars. L'autre gars s'est pointé avec genre une équipe de tournage, un micro-casque à lui. Il disait qu'il faisait son démo. Puis genre, il se la jouait, il se la pétait. Moi, j'étais intimidé, puis j'étais comme, je vais me faire détruire, tu sais. Finalement, il a fait genre 20 minutes au lieu de 6. Il a eu un blanc en plein milieu, il est descendu chercher ses feuilles, il est revenu.
What?
Ah, c'était un flop, là.
Ah, oh, ça, c'est dégueulasse.
Ouais. Mais moi, je capotais, j'étais comme, ah, c'est un vrai pro. J'étais comme, fallait amener son micro. J'étais comme, what? Je savais pas.
Ah, oh, il a porté son propre micro?
Son propre micro-casque.
What the fuck? Fuck ce gars-là.
Ah, c'était dégueu, là. Il y avait un long trench coat de genre tueur en série, là, puis c'était juste. Weird, là.
Je déteste quand le monde. C'est notre métier. On prend ça au sérieux. Mais il y a des limites. Ça, c'est des choses vraiment. Tu dois être délusionnel. Tu vois,
oui.
Come on, man. Qu'est-ce que tu fais?
Ton premier show, t'arrives avec ton entourage, là.
Puis moi, c'est lui, mon entourage.
Ben, c'est bon.
C'est bon. Il rentre là-bas. Oui, c'est une personne. Il m'amène du café et des choses comme ça. Mais non, jamais avec toute une équipe. Puis, mais tu sais, j'aime pas ça, le casque micro. Ça, déjà, ça m'énerve. Si je vois qu'il vient dans un open mic avec ça, je suis comme, bro, c'est une petite show.
Ouais,
calme-toi, tu vas faire quoi?
Trouve autre chose.
La magie.
Ouais.
Puis il y a une fucking trench coat.
As-tu déjà joué avec ça?
La magie?
Le micro.
Non, jamais, je veux pas.
Je l'ai fait une fois dans un gala.
C'est-tu bizarre?
C'est dégueulasse.
C'est pour ça que je veux pas.
Je savais que je voulais pas le faire. C'est juste que le metteur en scène a insisté que je l'essaye au moins une fois. Puis moi, la raison pour laquelle j'aime ça tenir un mic, c'est parce que mon autre bras, je le contrôle. Si j'ai mes deux bras de libre, ça fait ça de même. Là. Ça va
je suis grec, je parle avec mes mains. Alors déjà, j'ai un bras de libre. Déjà, tu vois beaucoup de ça. Imagine avec deux, ça va juste être ça.
Malade.
Si je suis un fucking lobster, je suis normal. You know, like, c'est non, je peux pas. Moi, j'ai besoin de micro. Ça me, c'est quelque chose. Je sais pas. Ça te rend un peu stable.
Ouais.
Ça stabilise toute ton affaire.
Ça me ground, moi.
Ouais.
Ouais. Puis micro avec fil, le plus possible. J'haïs les micros sans fil.
Tu sais, qu'est-ce qui est drôle, moi aussi, je comprends que c'est vraiment cool sans fil. Mais je suis habitué, ben non, d'avoir une film. Je peux jouer avec.
Ouais.
C'est, je peux, ça, ça fait bizarre quand j'ai pas de fil.
C'est comme, je sais où je marche.
Ouais.
Il est plus petit à tenir. C'est plus le fun dans la main. Puis t'es sûr qu'il n'y a pas de fuck-up de son. T'es sûr. Il y a tout le temps
ça
des bugs.
Avec les micros sans fil. Oh, moi, c'est arrivé. Je faisais un show. Fucking fâché, man. Parce que ça arrivait au punch, que ça coupait, puis le monde était comme... parce que des gens en avant ont entendu qu'est-ce que je dis, mais les autres en arrière n'avaient pas entendu. Puis j'étais fucking... Je dis, on peut-tu fixer ça? Non, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Je commençais à crier. C'est là que je vais crier mes jokes.
Ouais, ouais,
ah,
ouais.
Oh, c'était fucking bad, ouais.
Ça, tu le fais une fois, puis après ça, t'as plus de voix le lendemain, puis là, tu fais OK.
Ouais, c'était vraiment comme ça.
Ouais.
Je criais loin, mais juste un fil. Non, non, mais ça va être cool, on a des sans-fils, je m'en fous.
Ouais. C'est cool pour qui, man?
Mais c'est cool pour qui? Je comprends que c'est plus facile. Si je faisais grand chose, je tourne, ok, je veux pas que je tombe à cause de la, du fil et tout ça, mais habituellement, les stand-up, on est assez calme, on marche,
ouais.
On s'assoit, on boit quelque chose.
Je sais, sont où mes pieds aussi, là. Je suis capable de gérer un fil. Les enfants font de la corde à danser à 8 ans, là. Genre, je pense qu'on peut gérer un fil dans nos pieds, là.
Tu fais penser à ça, j'ai jamais vu une stand-up. J'ai vu plein de choses, mais j'ai jamais vu une stand-up qui a tombé à cause du fil. J'ai jamais vu ça. Puis moi, j'en ai vu des gens bizarres.
Ouais.
Puis ça, c'est... j'ai vu des gens tomber sur la scène, mais c'était pas à cause de la file, c'est juste à cause qu'ils sont stupides.
OK.
Il y avait un gars dans un open mic au Comedy Nest en anglais. Il a fait ça par exprès, c'était faisait partie de son gag.
OK.
Puis il était banni du club.
Parce qu'il est tombé?
Non, il a le mic, je pense, il a frappé un peu le mic, c'était un peu brisé. Mais c'était vraiment parce que tout, il est allé en haut, puis il disait juste des choses racistes, mais sans punchline.
Yeah.
Les choses racistes, moi, je suis tout pour ça, quand c'est drôle.
Ah oui?
Quand, mais si c'est pas drôle, ça devient plus de l'humour. Ouais. Là, c'est juste du racisme.
Il y a même pas d'attempt.
Ouais, rien. Alors, je suis venu au green room, puis je parlais, whatever, puis c'était juste du silence. J'ai dit, OK, c'est une open mic, mais quand même, c'est pour commencer juste du silence. On commence à écouter un peu. Oh shit, ça c'était pas une joke, ça c'était pas un punchline. C'est juste des observations de comment lui il est raciste. Puis après il fait semblant qu'il tombe ou whatever, puis le mic était un peu brisé, puis les gars qui avaient la soirée disaient « Tu veux plus revenir ici ?» Puis le gars dit « Pourquoi ? Pourquoi ? C'est des jokes !» Puis moi que je dis plein de choses bizarres, moi je dis comme hey, « Écoute bro, même moi, puis moi il n'y a pas de limite avec moi, tant que c'est drôle, même moi je te dis je pouvais rien trouver de drôle. »
Ouais.
C'est rien de drôle.
Je peux même pas comprendre. Parce que, tu sais, si c'est pas drôle, moi, je pardonne. Mais si je comprends ce que t'essayes de faire, c'est correct.
Lui, tu sais qu'est-ce qu'il voulait faire, puis je comprends qu'est-ce qu'il voulait faire, mais pas pourquoi il voulait faire. Il voulait être un peu shock-jock. Il y a plein de monde dans les open mic, quand moi, je commençais, il était comme ça.
Ouais.
Puis c'était juste pour choquer.
Mais il mélange le shock effect
avec le tabou. Punch. Ouais, exactement. Il y a des sujets tabous. Moi, j'aborde n'importe quel sujet.
Ouais.
Mais mon but est toujours, je vais te le ramener pour que tu ris à quelque chose que tu ne dois pas rire. Puis ah, fucking guy.
Ouais, moi aussi, c'est ça que j'aime.
J'adore ça parce que là, on fait partie de la gag ensemble, puis on peut rire. Mais tu ne peux pas sortir, puis et les Grecs, fuck les Grecs. Puis tu arrêtes là-bas.
C'est comment? Il n'y a rien.
OK, mais ben, pourquoi?
Ouais. C'est ta prémisse.
Ouais, ouais, ça n'a pas d'allure. Puis je vois ça beaucoup dans la scène open mic. Ils pensent, oh, je dois choquer le monde.
Ouais.
Puis il me voit, moi, on va dire des choses qui tombent sur la religion, la race, politique, whatever. Puis c'est comme, oh, OK, je peux aborder ça. Mais oui, si c'est drôle.
Ouais.
Eux, ils pensent que le monde rit à cause du sujet. Le monde rit à cause de comment tu sors le sujet puis comment tu les amènes à une joke. Mm-hmm. C'est pour ça qu'ils rient.
Ben c'est ça. Je trouve souvent, c'est ça, les gens. Il y a beaucoup de gens, quand ils commencent, qui confondent. Je pense qu'ils appellent ça un joke oil là, en anglais. Là. C'est genre, ça a l'air d'une joke. Pour toi, mais ça n'en est pas une pour vrai.
Ouais.
Fait que tu penses que c'est une joke, mais l'espèce de. Surtout les humoristes open micers qui veulent être trash, là.
Ouais, exactement.
Parce que dans le fond, ils sont capables de susciter des réactions avec des trucs super trash. Fait qu'ils sont juste comme ta mère, fourrée ta mère, morte.
Ouais, ouais,
des choses qui mais c'est pas un punch, c'est exactement. Juste trash.
Ouais.
Puis ils n'ont pas encore compris la distinction entre ça, puis une surprise avec un renversement qui crée un vrai punch, avec un rire, tu sais. Fait qu'il arrive juste avec du shock factor, puis là, tu fais, moi, mais c'est rien d'autre. C'est juste trash, mais ça veut rien dire. Il n'y a pas de jeu, tu m'amènes pas nulle part, tu joues pas avec moi, tu me surprends pas.
Moi, j'adore la surprise.
Ben, il quand faut.
Quand shock, oh, you motherfucker. Ouais. J'adore ça. J'adore les réactions comme ça, puis commence à dire, OK, you got me. J'aime ça. Mais juste sortir, dire des choses fous, ben, ça arrête d'être de stand-up. Pour moi, c'est ça le stand-up, c'est que ça doit être drôle. Tu peux parler de n'importe quoi. Moi, je pense pas qu'il y ait des sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder.
Non, moi non plus.
Puis si le public rit, tu as fait ta job.
Ouais.
Tu as fait ta job.
Comme... Les sujets que c'est plus dur d'aborder en début de show, là.
Ouais. Mettons, mais moi, j'ai appris ça de façon vraiment, vraiment bad.
Ah ouais?
Ouais, oh, je me souviens des fois, il y avait des jokes, je sais qu'ils marchaient, mais ils marchaient après 10-15 minutes.
C'est ça.
Tu open pas avec ça. Puis, je me souviens des faces choquées. Ah, oh, ok, c'est trop tôt. Okay. C'est toi, j'avais dû attendre.
Ah ouais?
Ouais, parce qu'après ça, c'est comme, on va où après ça?
Mais là, tu peux pas aller genre, tes observations sur l'épicerie, là.
Ouais, ouais, exactement. C'est comme,
okay. Ouais, tu viens, genre, de faire 5 minutes sur l'Holocauste, là. Ça se peut que, ça se peut que ton hey, les bananes, ils ont des taches brunes. Ça se peut que, genre, je m'en crisse, là.
Exactement, ouais, je faisais ça. Puis après, t'apprends. Tu vois, t'apprends qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis le temps, c'est où que tu vas mettre joke, puis tout ça. Puis en français, je pense que, parce que je commençais à faire ça en français, je pense que pour moi, ça me donne un avantage. Parce que des fois, je n'ai pas la bonne phrase, mais ils me comprennent. Puis ça me donne quand même, ils me donnent du slack.
Ouais.
C'est comme, ah, oh, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. C'est cool parce qu'il parle comme il vient de sortir d'un bateau. Ouais. Alors, on va l'accepter.
Ouais, on pardonne parce que...
Ouais, ouais.
Ah, mais ça, c'est bon. Ça, tu peux jouer là-dessus, là.
Puis je fais pas par exprès. Je vois des réactions des fois, puis je suis comme, ah, oh, ils m'ont juste laissé à cause de l'accent.
Mais Derek Séguin, il a joué là-dessus beaucoup.
Ouais, encore.
Ouais, tu sais, en anglais, il y a un accent français, puis en français, il y a un accent anglo.
En français, il y a un accent anglo?
Ouais.
Je suis fucking Derek. Ah, je savais pas.
Mais pas tant que ça, là, mais juste assez pour que, tu sais.
Oh, je vais te texter après ça. Je savais même pas, parce que je l'avais jamais vu performer en français.
Il me semble que c'est lui qui avait dit ça, genre que... Genre, il est parfaitement bilingue, c'est juste que quand il est en anglais, son accent franco, ça lui donne, je pense, un...
Ouais, ouais, ça lui donne un avantage. Ouais. Je savais pas qu'en français, il faisait la même chose.
Mais en français, quand il parle, clairement, il y a de l'air d'un anglophone qui parle bien français, là.
OK. Ça serait drôle, parce que quand même, c'est comme si moi, j'avais le nom Pébé Rivard, ouais. Je commence à parler en français avec cet accent-là, le monde est comme... De quoi tu parles, man? Ton nom est Pébé Rivard. Ouais. Like,
t'es okay. Né où, man?
Ouais. Ouais. Ouais, t'es né où?
Mais Séguin, il y a des Anglos qui sont Séguin. Ouais. Je pense dans l'Ouest. Puis, tu sais, il y a des joueurs de hockey, là. Que, là oh. C'est Tyler Séguin.
Tyler Séguin, ouais. Il est fucking bon.
Ouais, puis c'est un Anglo, là. Fait que, tu sais, il est pas.
Je savais pas qu'il faisait ça, Derek. Il y a un accent dans les deux, ça me fait confortable, ça me fait rire. Mike Patterson, il a un grand accent en français, puis pas plus en anglais. Mais lui aussi, ça marche.
Mais lui c'est, ça fait partie du hack. Là.
Ouais.
Je veux dire, le voir juste fight through.
C'est une expérience.
Ces mots-là,
ouais.
C'est comme, c'est drôle. Là. Il fait 4 minutes avec un liner, man. Moi, je trouve ça hilarant. Là. Puis je l'aime tellement, ce gars-là. Là.
Tout le monde l'aime. Il est bien aimé sur, ouais. Je pense, les deux scènes. Puis il a un comportement qui... C'est facile de l'aimer, tu vois, parce ouais. Qu'il te donne quelque chose en français qu'on ne voit pas beaucoup. Je sais que les francophones aiment ça, voir les Anglais essayer, mais lui, tu peux voir vraiment que... Écoute, je te donne 120% de ouais. Qu'est-ce que j'ai. Puis je vais tomber ici pour vous. Je vais faire tout ce que je peux pour qu'on se comprenne puis on rit. Puis je pense que le monde apprécie ça.
Ouais.
Ouais, c'est mais, tout un spectacle.
Mais le struggle qu'il y a de réussir à dire ce qu'il veut dire... Puis que tu comprends juste assez pour que toutes les jokes marchent, mais de le voir comme sortir des mots, puis il prononce tout croche. Puis tu sais, un bébé, il dit un brebé.
Ouais, ouais. C'est pas bien.
Là, t'es comme quoi?
C'est pas bien.
Il est capable de le dire. Là.
Ouais, mais c'est drôle.
Mais c'est hilarant, là, de le voir juste. Fait que là, t'es comme, man, t'as 22 rires sur un liner. Genre, parce qu'il y a tellement de niveaux de toi qui essaie juste de te rendre à la fin de ta joke, puis on root pour toi. Parce qu'on est
ouais,
comme,
c'est ça, tout le monde veut que t'arrives.
On t'aime, là.
Ouais, ouais.
On est comme, vas-y, Mike, fais-nous rire.
J'aime ça. Moi, j'avais peur au début de faire ça en français.
Ah ouais?
Ouais, ouais, j'avais vraiment peur. À cause de l'accent, puis tout ça. Puis mais c'est Mike Ward qui me poussait.
C'est vraiment bon, là.
Bon, c'est quand même fort, mais c'est juste non, que non. Je parle français.
Ouais, mais tu parles bien français, là. Genre. Honnêtement, c'est pas stressant. Là. Toi, sur un stage, ça m'inquiète pas. Tu as tout pour...
Maintenant, je vois ça. Maintenant, okay. Je vois ça. Mais au début, man, j'étais stressé. Puis Mike, il me poussait.
Ouais.
T'es comme, de quoi tu parles? T'sais? Puis t'sais, Mike, on se niaise. Mike Ward, s'il veut faire une prank, il peut le faire, le prank. Alors, j'avais même ça dans ma tête. Il m'avait invité, c'était à Saint-Jérôme, puis pour faire sa première partie. Puis j'étais comme, il y a fort chance qu'il me niaise. fort chance que je sors, je me plante, puis il dit, ah, mais c'est qu'est-ce que tu fais, stupide, tu ne veux pas faire ça en français, je pense qu'il est peut-être niaisé. Mais non, lui, il était sérieux, il était conscient.
Il est pas cruel, Mike.
Non, il était comme, ouais. Non, je pense que ça va marcher. Et je pense que l'accent va même, tu vas trouver le bénéfice d'avoir un accent comme ça. Tu vas voir que ça t'aide sur ouais. la scène. J'ai comme, non, ça va pas marcher, ça va marcher, mais fuck, tu sais, moi, j'écoute tout ce que Mike me dit, moi, je vais le faire. C'est mon fucking grand frère. Alors, je dis, OK, je suis allé là-bas, puis ça marchait, le monde aimait ça. Puis j'étais comme, oh shit, peut-être. Peut-être il y a quelque chose. Puis je commençais à traduire toute mon heure en anglais. Puis maintenant, fuck, ça marche. C'est fun pour moi. C'est vraiment plus difficile que d'anglais. L'anglais, je ne dois même pas penser. Je peux aller, si tu me dis, tu as une spot dans 15 minutes, je vais être prêt.
Ouais.
En français, man, oh, parce que j'ai jamais mes mots prêts. C'est une demi-seconde que je dois penser.
Ouais.
Puis ça rajoute de l'effort, de l'énergie. Mais les résultats, pour moi, c'est ça qui me rend heureux. Je travaille très, très fort pour les rire, pour faire le monde rire. Puis après, je dis, OK, shit, j'ai travaillé pour ça.
Ouais. C'est... Puis c'est aussi plus payant, le marché franco, vu qu'on est tout petit, c'est plus payant rapidement.
Oh, beaucoup plus. Ouais, il n'y a pas vraiment... J'aimerais bien aider à changer ça, mais je ne sais pas comment je peux le faire pour aider un peu la scène anglo, trouver... un marché pour eux où ils peuvent faire de l'argent, puis on ouais. peut avoir des stand-up en anglais que c'est leur carrière. Mais honnêtement, je ne vois pas comment ça peut arriver parce qu'ici, en anglais, ils n'ont pas vraiment une industrie. Il n'y a pas de writing gigs. Comme ouais. moi, les gens où j'écris pour eux, ils sont aux États-Unis. Il n'y a pas quelqu'un ici que je vais écrire pour lui, mm-hmm. pour son show ou whatever.
Ils vont être à Toronto ou Ottawa.
Peut-être à Toronto. Même à Ottawa, c'est un grand village.
Ouais.
Ouais.
Fait que les humoristes canadiens anglo...
Toronto, ils sont là. Puis quand tu vas là-bas, c'est pas juste les humoristes anglo bons. Tu vas voir tout le monde là-bas.
Ouais. Alors, les Américains, ils viennent dans le fond.
Exactement. Puis tu sais, il y a de la compétition. Puis il y en a plein de shows de merde que tu vas faire, comme ici, comme ouais. partout. Alors quand même, c'est difficile. Mais puis la mentalité est différente. Le public ici en français est beaucoup plus chaleureux. Puis mm-hmm. c'est comme s'il veut que tu gagnes.
Ouais.
Ils sont comme vraiment comme « Hey, let's go ». On veut d'opportunités. Même pour moi, ils me poussent. Tout le monde veut me donner des opportunités. Ils veulent. Non, 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 on s'en fout. On veut que tu fasses, que ça va bien pour toi.
C'est intéressant. On est curieux.
Ouais.
Ouais.
Mais en anglais, je sais parce que je faisais ça pour des années. Je sens mal. Puis je dis à tout le monde, je les motive. Je dis « T'es-tu bilingue ?» Ils disent « Oui ». « Fuck, t'as traduit tes jokes.
Ouais. »
Commence à faire ça en français. Si, non, je sais pas. Non, je disais la même chose. Traduis tes jokes, man. Essaye quelquefois. Tu vas avoir plus de respect. C'est un monde qui adore. C'est une culture qui aime les arts.
Ouais.
C'est vraiment, vraiment difficile. C'est difficile à l'exprimer à des gens qui le connaissent déjà, comme le public français. Mais écoute, ben ouais, c'est comme ça. Mais shit. Puis lui, il a vécu beaucoup de ça parce que lui, il me voit en anglais puis en français. Puis il voit le public, puis il voit l'industrie, comment ça marche, tout ça. Puis lui, il voit la différence. Puis ouais. il est un peu dehors. Alors pour lui, sa perception est vraiment bonne parce qu'il dit comme « Fuck, man, c'est une autre monde. »
C'est clair. Oh non, ouais. c'est difficile. Puis dans le fond, c'est comme, peu importe à quel point t'es hot au Canada, étant donné que c'est en anglais, t'es toujours le club école des States.
Là. Exactement. Il y a des limites.
Ouais. Puis pourtant, on a des comics au Canada que j'adore. Là. Genre, puis les gars déménagent.
Ouais, il doit. Moi, il y a juste un qui est encore ici que je lui dis à chaque fois que je le vois. Je sais pas pourquoi tu es encore là. Il dit, ah, j'ai une famille, puis je travaille, puis j'écris, puis tout ça. C'est un des meilleurs stand-up ici, puis pour moi. Mais lui, il est jamais parti pour aller aux États-Unis.
C'est qui, lui?
David Pride.
Ok, ouais, j'ai entendu parler, ouais.
Lui, man, c'est.
Mettons.
C'est incroyable. C'est un bon gars aussi.
Stuart Francis, que j'adore. Jeremy Hotz, là, il est quand même connu, mais Jeremy il n'a pas percé aux States quand même.
Il n'a pas percé grand, mais il habitait au Los Angeles. J'avais rencontré Jeremy Hotz une fois à Ottawa. J'étais allé headliner le Yucks.
OK.
Puis moi, c'était vendredi, samedi, puis lui était là jeudi. Alors, je l'ai rencontré. Il est venu vendredi me voir, fin du show, puis on s'est mis à parler dehors. Parce qu'il avait juste vu que j'avais fait des podcasts, puis il voulait voir comment sur la scène.
Nice.
Puis après le show, il me parlait comme « Hey, fuck, j'aimais ça, man. Qu'est-ce que tu fais? T'es où? T'es juste à Montréal? » Puis on a commencé une discussion. C'est là qu'il m'a dit qu'il habite à LA. Alors, il fait plein de choses là-bas que je ne savais pas.
Ouais.
Il fait plein de stand-up et tout ça. Alors, il n'a pas percé. Mais imagine, un gars qui est vraiment grand ici, il doit partir à LA, puis même pas être le plus populaire à LA, puis il va faire plus d'argent qu'est-ce qu'il pouvait faire à Ontario ou whatever.
Ouais.
On les pousse dehors de partir. Puis ça, je pense que c'est pas bon pour la culture du stand-up au Canada. On a besoin de faire quelque chose pour les garder.
Ouais.
C'est pour ça que le Québec a des stand-up forts. Puis la France, ça commence, tu vois. Puis ils sont influencés par nos gars qui vont là-bas aussi.
Ouais.
Beaucoup. Imagine ça. Puis la France est grande. Ils ont plein de personnes. Mais c'est juste.
La France, c'est vraiment, vraiment steppé up. Moi, je suis allé souvent. Là. Puis j'adore ça là-bas. Je me suis fait plein d'amis. Puis...
Apparemment, c'est complètement différent de ce que c'était ça fait 10 ans.
Ouais, vraiment.
Ouais.
Moi, ça fait 10 ans que j'y vais, en fait. Fait que j'ai vu comme l'évolution là, de.
Comme Sammy. T'as vu Sammy quand il va là-bas? Sugar Sammy, il...
Ouais.
Il fucking détruit tout.
Ah, ouais. il est incroyable. Là. Mais j'ai vu les gars commencer aussi, les gars changer la culture, puis venir ici aussi. Tu sais, tout Kian, Adrien Arnoux, Thomas Wiesel qui est.
Mais tu vois, eux, ils font ça. On doit faire la même chose au Canada pour les stand-up anglais.
Ouais.
Ça n'existe pas.
Aller au stand-up, c'est vraiment bizarre. Mais sinon, l'option, c'est d'aller à New York puis de perdre ton delivery.
Non, c'est. Tu sais, qu'est-ce qui est drôle, c'est que.
Ça devient tout layback, genre, plus d'énergie, puis t'es comme.
Oh, ouais, ouais, man, ouais.
Come on.
Ouais, j'aime pas quand le monde perd aussi. Mais il y a plein de stand-up comme à Toronto, il y avait Danny Polishchuk puis Ryan Long. C'est des bons gars.
OK.
Ils sont allés à New York, puis juste avant la pandémie, ils ont déménagé là-bas, puis eux maintenant, ils ont explosé sur l'Internet, ils font des sketchs, puis tout ça aussi,
c'est
à chaque semaine.
C'est ça le nouveau chemin.
Ouais, puis des podcasts, puis eux, ils sont des Canadiens de Toronto, mais ils ont dit shit, on a des limites ici. Alors, on va essayer à New York. Il y avait le talent, mais ils ont dû partir. Les Québécois, on va dire maintenant, toi, tu es talentueux, tu veux faire une carrière ici, le monde t'aime. Tu n'as pas besoin de laisser ta famille. Tu peux faire une carrière ici.
Ouais.
En anglais, non, oublie ça.
Mais ça, c'est incroyable qu'on ait ça ici. Ouais.
C'est quelque chose de magique, vraiment. Comme...
Je pars en tournée, quoi, maximum, genre 4 jours, puis après ça, je reviens. Là. Mais la plupart du temps, c'est comme je vais dormir un soir, je reviens, ou je reviens le soir même. Je
veux dire. Exactement, ouais.
C'est possible là, d'avoir une famille, puis de. C'est quand même cool. Là. Mais ouais, les autres, ils n'ont pas le choix de déménager. Puis en France, mais en France, ils peuvent le faire. Là. Il y a tellement de monde à Paris qui peuvent rester juste à Paris toute leur carrière. Puis...
Ouais, hein, c'est... il y a une grande scène là-bas maintenant.
C'est Verino, là, c'est un gars que je connais bien là-bas qui est comme, quand même une vedette. Là. Puis lui, il gagne super bien sa vie, puis il fait de la tournée, tout est plein partout. Puis le gars, il est super travaillant. Puis. Il a son crowd, il fait des trucs sur le web qui nourrissent. Il a tout le temps des bonnes idées. Il faisait des vlogs.
OK.
Dans le fond, il se met sur scène. Il met la caméra devant lui. Mais derrière lui, c'est le public du soir où il jouait. Puis il fait un vlog normal. Genre,
avec eux.
Cette semaine, genre, il s'est passé ça. Mais lui, il est dos au public. Fait que la caméra filme lui, puis le public derrière lui. Puis il fait son vlog. Fait qu'il fait tout le texte qu'il a écrit sur genre, cette semaine, il est arrivé, mettons, lui, il a dit ça à ce politicien-là. Puis là, tatata, puis il fait des jokes, puis il fait des jokes. Puis après ça, quand il rentre chez eux, il fait son montage, puis il fait un vlog jump cut normal. Mais il fait dans la salle qu'il a fait son show ce soir-là.
C'est une cool idée.
C'est comme super smart, là. Puis ça l'aide au bout, c'est viral, puis ça se promène. Puis...
Tu vas me donner ces informations parce que je pense que l'année prochaine, on va avoir. J'ai eu une demande pour peut-être aller en France, puis je pense. Switzerland, pour faire le French cast.
Ah, ben, dude, je vais te donner plus que juste Verino. Là. Je vais te donner tous les contacts là-bas. Là.
Ouais, ouais.
Il y a plein de monde que je connais là, qui sont vraiment cool puis qui peuvent comme.
Ça serait intéressant de entendre leur histoire.
Ouais. Ils sont tous super fins. Thomas Wiesel, Charles Nouveau, Marina Rollman, ça, c'est des Suisses. T'as des Belges aussi là, qui sont super cool aussi.
On va pas laisser les Belges aussi. On doit avoir des limites de respect.
Dude, les Belges.
Je te niaise, non?
Les Belges sont plus nice. Que les Français puis les Suisses.
Ah ouais, moi j'ai pas de confiance dans les Suisses. Moi je ne les crois pas, les Suisses.
Ils sont smart.
Les Suisses sont dangereux.
Mais ils sont drettes. Là. Moi j'étais allé à Montreux là, faire un festival là-bas.
C'était fun?
C'était cool, mais genre le public, genre moi ça a super bien été, mais vu que ils font, je sais pas pourquoi ils sont pourris en captation, ils mic pas le crowd. Fait que tu joues, puis la captation, genre t'as l'air de te planter parce que le crowd n'est pas micé.
Oh ouais, tu peux même pas entendre les rires du tout.
Les rires, tu les entends pas. Fait que moi, je suis dans la salle, puis là, ça va super bien, mais genre.
Tu regardes la captation,
tu regardes la captation, puis ma famille était comme, ah, c'était difficile, hein. Je fais, non, c'est super bien été.
Mais comment ça, personne leur a dit, hey.
Ils ont une façon de travailler tellement différente là-bas. Là. Tu sais, des Q2Q avant des tournages, là, c'est genre, tu rentres, puis OK, ben là, je vais crier là, puis je vais te déplacer là, puis. Avant moi, c'était Verino, justement. Puis Verino, lui, il connaît ses trucs comme au quart de tour. Là. Il fait ses sketchs, fait qu'il rentre, puis ça prend genre une demi-heure. Là, parce qu'il est comme, OK, là, je vais dire cette phrase-là, je veux cet éclairage-là, là, je vais faire ça, j'ai besoin de ça. Il y a un cue qui sort là. il est super tight. Puis là, j'entends genre, OK, on est en retard d'une demi-heure sur l'horaire. Puis là, c'est moi le prochain à faire le Q2Q. J'arrive sur scène, je fais comme, ben, je vais rentrer, je veux le mic direct sur le pied. Mon punch-out, ça va être merci, bonsoir. Je vais le caller, mon propre out. Puis après ça, je vais sortir par là. Ils sont comme, OK, on a rattrapé le retard.
Ah ouais, ils pensaient que ça allait prendre une demi-heure.
Je suis sorti en coulisses, puis les techs étaient comme, man, genre, vous êtes bien tight. J'étais comme, ben, on n'a pas besoin de rien d'autre que juste, this is my. Like my in, my out, I yell there. That's
c'est facile. Puis moi, je trouve qu'ici, à la scène française, ils essaient aussi, la scène québécoise, de te mettre à l'aise. Parce que même moi, il y a des shows où ils me demandent trop de questions, puis je me fâche. Quel type de micro? Plein de questions. Puis je dis, hey, écoute, man, je sais pas avec qui tu deals habituellement. Je suis une stand-up. Donne-moi même pas de chaise, même pas de banc. Un micro, n'importe quel micro, je vais sortir, je vais faire mon numéro. C'est vrai, j'ai juste besoin de ça.
Ouais.
J'ai juste besoin de ça.
Moi, j'aime ça. Je suis comme ça dans le sens où peu importe ce qui se passe, je peux jouer.
Ouais.
Puis c'est pour ça que j'aime ça me booker des shows dans des places vraiment weird.
Genre, c'est quoi la place la plus weird que tu as booké?
J'ai joué dans un autobus de la STM.
Quoi?
Ouais.
Est-ce que la STM savait que tu vas faire une show? Ouais.
Ouais. Entre la station Mont-Royal puis Parc, j'ai fait un 15 minutes. Là.
Non!
Ouais, avec le micro, oui. Avec le micro du chauffeur.
Pendant que l'autobus allait?
Voulait.
Oh, ça, c'est fucking cool.
Avec le mic du chauffeur, puis genre, c'était...
Sur l'avenue du Parc?
Ouais, ouais. Entre Mont-Royal puis Parc, la station de métro, il y avait un autobus qui faisait ce trajet-là. Moi, j'étais embarqué. Les gens de l'autobus...
C'est quoi, le 535?
Je sais pas c'est quoi le nom du boss. Honnêtement, je connaissais pas le trajet. Moi, on m'a juste dit, t'es booké, tu pointes à cette station-là, l'autobus arrive à cette heure-là. Les gens qui voulaient voir le show, il fallait qu'ils soient là puis qu'ils prennent l'autobus en même temps que moi. Fait qu'ils rentraient, ils
s'assoyaient. T'as filmé
ça? Je l'ai pas filmé, j'ai une photo en archive. Oh. Là, ça fait 11 ans de ça.
Oh, tu vas filmer les choses comme ça. Ouais.
J'ai fait ça, j'ai joué sur un bateau, j'ai joué dans une forêt l'été passé, en plein milieu d'une forêt, c'était insane.
Ah.
Pour vrai, là, c'est merveilleux, je veux le refaire n'importe quand.
Quand. C'était comme une affaire de camping?
C'était, ouais, c'était un terrain de camping privé, mais il y avait un stage complet avec, c'est dans le coin de Charlevoix. Le gars, c'est privé, là, c'était à lui, puis il y a plein de musiciens qui vont là faire des shows. Puis là, ben, le monde avait des chaises longues, c'était genre des arbres bien cordé sur le côté, le stage, PA professionnel, éclairage. Puis je suis monté là, j'ai fait une heure et demie devant des gens dans des chaises de camping, un chien qui se promène. Puis c'était malade, pour vrai. Moi, j'aime ça faire des shows dans des endroits étranges. Tu sais, fait que...
Moi, je déteste faire des shows dehors, mais je les fais quand même maintenant. Ouais, juste pour rire.
Ouais.
Mais je détestais ça.
C'est moins le fun,
ouais.
Mais avec les années, j'ai comme mon rapport à tout ça a changé. Je suis plus dans le « est-ce qu'on passe un bon moment ?» Puis mon radar de ce que les gens passent un bon moment, c'est affiné aussi. Fait tu sais, quand tu commences en humour, je sais pas si tu faisais ça, moi je comptais mes claps.
Oh non, moi.
Cette joke-là, c'est une clap, cette joke-là, c'est une clap. Puis il y a plein d'humoristes, j'en ai parlé, là, qui font ça aussi, là, au début. Puis là, t'es comme j'ai ma clap là, tu comptes tes rires là. Puis à un moment donné, tu vieillis, puis ça devient plus comme une symbiose de l'énergie qu'il y a, puis jaser, puis le moment qu'on passe, puis tu deviens plus sensible à ça. Puis effectivement, tes shows vont de mieux en mieux. Puis c'est une énergie qui se build. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire au début, je trouve. Fait qu'à cette heure, les shows dehors, je sais que ça va être d'un niveau rire. Ça va être moins que dans une salle parce que les rires vont pas rebondir partout.
Ouais.
Mais des fois, tu es surpris puis l'acoustique est super cool pareil.
Ouais, ça peut arriver des fois, ouais.
Mais quand ça arrive pas, tu paniques pas parce que tu regardes le monde puis là, tu as d'autres informations pour décoder qui trippent toutes puis qui ont du fun, que c'est juste que le rire, il s'en va se perdre dans le ciel. Là. Il te regarde en riant, tu le vois rire, mais tu l'entends pas, tu sais que c'est parce que le son se rend pas. Là. Fait que tu sais, tu finis par... Il y a quelque chose de cool de se mettre dans marde, je trouve, volontairement.
Oh, ça, oui. Ça, je faisais ça avant,
c'est
par exprès, pour essayer de sortir, d'en sortir. Puis ça me faisait un meilleur stand-up.
Mm-hmm. Ouais, c'est juste le fun de faire comme... Tout ça est contre moi.
Ouais.
Peux-tu réussir à créer quelque chose?
À cause de tout ça, maintenant, il n'y a jamais une chance que je vais dire « OK, je vais pas faire, je vais partir jamais. Je m'en fous. »
Exactement, même chose pour continuer. Moi. J'ai tourné il y a 2 ans. J'ai transformé mon Jetta, qui n'est pas un station wagon, qui est juste un Jetta normal, là, en camper solo.
Comment t'as fait ça?
J'ai enlevé ma banquette arrière, j'ai baissé mon banc, j'ai mis un matelas dans le coffre puis qui sort sur ma banquette arrière. J'ai mis genre des ventilateurs, des moustiquaires, j'ai tout arrangé avec des lampes, des cordes, j'ai tout rigué. Puis je suis parti 5 jours au Nouveau-Brunswick, puis j'ai fait des shows un peu partout. Puis je dormais genre caché dans des parkings de cinéma, puis tout ça dans mon setup de camper. Genre.
Puis c'était-tu des shows que tu avais déjà bookés?
Ouais.
Oh, ça, c'est drôle.
Ouais.
Alors, t'es comme, merci tout le monde, je vais être au parking.
Ouais, je m'en vais me coucher dans le parking. Puis, juste pour le trip, pour moi, c'était des vacances.
Ouais, c'est du road trip, c'est du camping.
Je me suis payé des vacances. Je voulais faire un road trip au Nouveau-Brunswick. J'ai fait tant qu'à faire. Je vais me booker des choix un peu partout. Je sais pas combien ils vont payer. Puis, il y en a eu que j'ai eu des belles surprises. Il y en a qui étaient moins payants, mais j'ai aucune dépense. C'est un peu du gaz. Puis, je dors dans mon genre. Fait que j'ai fait comme. Entre rester à la maison puis faire ça, ça me coûte la même chose. Ouais. Fait que je suis parti, j'ai fait 5 jours de show, j'ai eu du fun au bout.
T'aimes ça le Nouveau-Brunswick?
Ah, j'adore jouer là-bas.
J'ai entendu des bonnes choses.
C'est le fun de jouer là-bas. Là. Si tu peux y aller, là. Puis en plus, toi, t'es bilingue, fait que c'est malade. Là. Tu peux faire genre le côté franco puis le côté anglo.
C'est ça qu'il me disait, ouais.
C'est insane, là.
Je savais pas qu'il y avait tout un côté. Pour moi, c'est ça qui était surprenant. Moi, je pensais que tout le monde est ou bien bilingue ou non, mais ils m'ont dit non, il y a des côtés francophones puis des côtés anglophones. Ouais.
C'est quand même une minorité, le côté francophone, là, par rapport à l'anglophone. Mais c'est assez gros pour qu'il y ait une culture là-bas qui ait leur propre culture, dans le fond. Là. Puis vu que tu viens pas de là, ils t'aiment encore plus. Ils ont ça. Là, ils ont des humoristes là-bas, acadiens, qui ont commencé là-bas, qui sont venus ici. Puis quand ils retournent là-bas, là, ils sont pris au sérieux parce qu'ils sont venus ici.
Est-ce que ça arrive, comme je devais demander à J.C. Surrett, si c'est comme ça pour lui?
Oui.
Ah ouais, hein, c'est...
J.C., c'est ça, genre, parce qu'il en fait ici. Quand il va là-bas, genre, ils le prennent au sérieux, tu sais, oh shit, JC, il est là, tu sais.
Moi, j'aime ça niaiser JC chaque fois qu'il parle français parce que moi, j'ai l'accent. Puis, je dis, pourquoi est-ce que tu parles pas français? Il dit, comme je parle français, puis il dit qu'un mot bizarre comme pêche, il dit poche.
J'étais allé à la poche.
Écoute-moi, JC. C'est pêche. Il dit, non, poche. Poche. Il dit, écoute, moi, je vais dire avec mon accent, c'est pêche. Puis, il se fâche.
C'est drôle. JC, c'est un de mes plus vieux buddies en humour. C'est un des premiers gars avec qui j'ai fait des shows.
Ouais, hein?
Genre, au Nouveau-Brunswick. C'est un des derniers gars avec qui j'ai viré une brosse dans la vie.
Oh, ouais?
Ouais. J'ai arrêté de boire, moi, ça va faire 11 ans, là. Genre.
Oh, t'es complètement clean?
Ouais clean.
Depuis... Lui, il boit encore.
Ouais, je sais.
Puis, lui, il boit pour vous deux.
Ben, c'est ça, j'ai donné le flambeau. J'ai dit, continue, buddy. Mais ouais, JC, il est magique, là. Ça, pour moi, c'est aussi un bel exemple de road comic de. C'est un gars qui aime ça faire du stand-up, il aime la vie qui vient avec.
Il écrit aussi.
Ouais.
C'est un très bon gars pour écrire.
Ouais.
Puis quand il s'assoit puis il commence à écrire, bro, si tu lui donnes 8 heures, il va écrire pendant 8 heures.
Ouais.
Des bonnes gags.
Ouais.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça.
Non, ben, en français, je t'avouerais qu'il y en a quand même beaucoup.
Qui écrit beaucoup comme ça?
Ouais. On est très, très, très. En tout cas, moi, dans les gars que je connais, puis je connais tout le monde au Québec pas mal, là, t'sais, dans l'humour, puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont très, très astuces, très disciplinés, puis des bons auteurs qui sont capables de faire leur propre joke. T'sais.
Ah ouais, c'est vrai, parce qu'ici, il y a une autre chose que c'est nouveau pour moi, il y a des humoristes qui font pas leur joke.
Ouais.
Ça, pour moi, je me souviens quand même essayer de décrire ça, c'était vraiment nouveau pour moi.
Ben, je t'avouerais, t'sais, moi, j'en ai fait beaucoup de writing pour d'autres. Aussi. Là,
moi, j'en fais. J'écris pour
ça. C'est ça, j'en fais moi aussi. Mais les humoristes, c'est rare qu'ils font aucune de leurs jokes. La plupart du temps, tu vas bonifier leur texte ou tu vas prendre leur proposition puis tu vas les aider à la bâtir. C'est rare que, à moins que ce soit une personnalité publique qui ne fait pas de stand-up, qui veut faire un gala, mettons, puis il faut y écrire un numéro, là.
C'est tout 100%.
Là, j'écris, je pars de zéro, puis j'y amène une proposition. T'sais. Mais la plupart du temps, il faut que ça vienne d'eux, puis ils le savent. Ils veulent juste que tu viennes appuyer, puis puncher plus, puis nourrir leur truc. Fait que tu travailles avec une base. Là. Fait que ça demeure eux. Là. C'est peut-être.
C'est quand même leur voix.
Ben ça oui, c'est ça. C'est quand même eux. La base de travail qui t'arrive, c'est eux. Fait que t'as pas à y créer une personnalité. Là. Tu pars de ce qu'ils veulent dire. Ouais. T'optimises ce qui veut dire, tu punches plus, tu y proposes des avenues, des pistes, ouvres ton texte, tu coupes des trucs qui servent à rien, puis ça devient juste de la script édition puis de la technique rendue là. C'est pour aider quelqu'un, mais de A à Z, c'est plus rare, je te dirais. Là.
Puis toi, est-ce que tu préfères de faire la scène, stand-up, d'écrire des podcasts? C'est quoi, tu es une stand-up, mais c'est quoi ton affaire préférée autour du stand-up?
Ah, moi, c'est la scène.
C'est toujours la scène.
Moi, c'est la scène à 100%. Là. C'est avec ça que je tombe en amour quand j'ai commencé. C'est pour ça que je me bats pour continuer à avoir ma carrière puis continuer de pouvoir faire du stand-up. C'est ça.
On peut enlever toutes les autres choses, mais on n'enlève pas le stand-up.
Non, exactement.
Ouais, moi aussi.
Le stand-up combine tout ce que j'aime. J'ai la liberté dans ma vie de tous les jours. J'ai une vie que on a une vie que personne n'a.
Ouais.
Moi, je me lève le matin, puis genre, je peux checker comment je me sens, puis je peux décider ça va être quoi ma journée en fonction de ça. C'est fou, là.
Ouais, ouais.
Puis tu sais, tout ce qu'on a... Puis comme j'expliquais à quelqu'un, à un moment donné, je dis, moi, on transforme des mots en brocolis. Genre, à un moment donné, je pense à quelque chose, j'écris des mots, puis éventuellement, à travers un processus, je vais être payé pour les dire, puis je prends cet argent-là, puis je m'achète du brocoli, puis je mange, là.
Fait que, j'ai jamais pensé à ça, bro.
C'est fou, là, comme business, là.
C'est fou comme business, je vais dire, je ressens ça à chaque jour, mais j'ai jamais pensé à de la transformation d'argent. Ouais, t'as raison.
On prend ça des idées en brocoli, là. Genre, c'est, pour moi, c'est fucked up. Chaque idée que j'ai peut être monnayable, puis je peux gagner. Puis je gagne ma vie avec des idées. C'est pas juste de stand-up, de plein d'autres affaires, des concepts publicitaires, des shit de même. Fait que ma vie, c'est juste de laisser passer aucune idée, puis de la formater, puis il y a du monde qui sont prêts à acheter ça, tu sais. Puis je réussis à gagner ma vie de même. Fait que ça, je veux dire, pour moi, c'est insane, là, que je suis pas obligé de faire du 9 à 5. Je vais travailler super fort, mais je suis pas pris dans une structure. Fait que cette liberté-là, incroyable pour moi. Fait que je me bats pour ça. Puis le, écrire, être auteur et tout ça, puis faire de la narration, puis des podcasts, j'adore tout ça. Les podcasts, c'est plus aussi pour le fun.
Ouais.
Mais en majorité, c'est pour combiner, diversifier pour pas que s'il y a une pandémie qui arrive, je fasse plus une scène.
Ouais.
Comme c'est le cas pour moi.
Comme on a vu, ouais.
Ben, c'est ça. Moi, j'avais tout diversifié mes affaires. Fait que je fais de la script édition, je faisais du coaching d'humoriste, je faisais de la pub, de la narration, des podcasts. Puis la scène, là, j'ai perdu la scène en pandémie, mais j'ai gardé tout le reste.
Ouais, ouais. C'est important de diversifier.
Pour la survie, là, strictement d'un point de vue résilience, puis survivre, puis réussir à toffer dans le temps. Parce que moi, je pense que c'est ça notre défi, c'est de durer.
Ouais.
Je pense que c'est important de se diversifier, puis d'avoir les mêmes un petit peu partout, tu sais. Fait que tout ça, je le fais pour pouvoir, comme à la fin de l'année, accumuler tout ça, puis faire « bon, ben, je gagne ma vie. Est-ce que le stand-up est ma source principale de revenus? Non. Mais il y a des années que oui. Mais les années que non, j'ai plein d'autres affaires pour patcher et me permettre de continuer à faire ça qui est ma passion, tu sais, puis qui me fait triper. Mais mon but ultime, c'est de pouvoir juste genre que les gens attendent après mes tournées puis que je sois sold out partout. Puis, tu sais, je disais, puis si ça arrive, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, je ne serai jamais dans merde à cause de ça parce que j'ai structuré ma carrière autour d'une façon à ce que je puisse continuer de le faire, triper, continuer de fumer les specials, les sortir, écrire. Mais je ne suis pas dépendant de ça pour vivre.
Ouais.
Sauf que si j'en vis vraiment bien, mais tant mieux, je vais laisser le reste sur le côté, puis je vais faire juste ça, tu sais.
Puis est-ce que tu penses que tout ce que tu fais à côté, parce que pour moi, le podcasting, c'est vraiment ça, c'est un ajout à tout ce que je fais pour le stand-up, puis je pense que c'est une publicité pour moi.
Absolument.
Le monde t'aime, et j'aime les sujets qu'il aborde, je veux voir s'il est drôle sur la scène. Je vais m'acheter une billet, je vais aller le voir. Puis sans ça, ben, c'est impossible que quelqu'un qui ne te connaît pas va vouloir venir te voir dans sa ville.
Mais c'est exactement pour ça que j'ai starté mon podcast au départ. Parce que moi, j'avais de la misère à m'ouvrir et à me laisser aller.
Okay.
Au début de ma carrière, quand je faisais bien du liner, là, j'étais très dans le bit, le rire, mais le côté humain, je suis quelqu'un d'hypersensible dans la vie, mais je n'étais pas capable de l'exprimer. J'avais une carapace. Fait que même avec le public sur scène, je te faisais rire, mais j'avais de la misère à connecter. Puis moi, c'est ça que je voulais réussir à faire. Fait que tout plus que les années avancent, plus que moi, je m'ouvre, puis j'enlève des couches. Puis là, à un moment donné, aujourd'hui, à cette heure, je suis genre 100% moi, open, c'est cool. Puis là, les shows sont vraiment trippants pour ça. Mais avant, je n'étais pas capable de faire ça. Fait que le but du podcast, c'était mets-toi dans une position où tu ne peux pas calculer tout ce que tu dis. Fait que tu n'auras pas le choix d'être naturel à un moment donné, puis de prendre confiance là-dedans. Puis éventuellement, je vais transposer ça sur la scène. Fait que ça m'a comme enlevé cette espèce de stress-là, tout doit être parfait tout le temps, cette espèce de perfectionnisme-là que j'ai qui me nuisait. Je me suis mis dans une position où ça ne me sert à rien. Fait que je l'ai cassé comme ça. Éventuellement, juste jaser, puis à faire comme c'est pas grave. Puis éventuellement, ben, ce naturel-là il est venu sur scène, ça m'a aidé à avancer. Là, fait que ça a été ça, l'espèce de. C'est la meilleure chose de podcast. Puis, ce qu'on veut ultimement, c'est que les gens aient une porte d'entrée vers nous. On a notre stand-up, je pense, qui fait ça, qui est une porte vers qui je suis. Fait que tu peux passer par le stand-up pour voir je suis qui. Mais le podcast, c'est une autre porte vers moi, tu sais, puis vers toi. Puis après ça, une fois que les gens sont dans pièce, c'est la même pièce. Fait qu'ils peuvent sortir par la porte puis aller voir le stand-up après. Là.
Ouais, ouais,
parce
c'est
que là,
vraiment
ils s'intéressent
ça.
À ça. Tu sais.
Ils ont rentré dans les meubles.
Ouais, ils sont là, ils sont dans pièce. Fait qu'ils sont comme, what else? Ils sont comme, ah, tu fais du stand-up aussi? Cool, ben je t'aime, je vais aller voir ce que tu fais. Tu sais.
Ouais, c'est vraiment ça. Puis pour moi, c'est ça que je fais, c'est ma stratégie. Puis j'aime le podcast à cause des moments comme ça. J'aime amener des gens où je suis intéressé à leur opinion, à qu'est-ce qu'ils ont fait, mais des fois, tu sais, je pense que d'autres mondes ne savent pas tous les détails ou je n'ai pas la chance de les connaître.
Ouais.
En vrai, comme moi puis toi, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais on ne s'est jamais croisé. Ouais. J'étais intéressé. Alors, le podcast, c'est la meilleure façon parce que tu dis à quelque chose, hey, à quelqu'un, hey, viens chez moi pour une heure, deux heures, ouais. On va parler. Ça fait bizarre. Mais, hey, viens faire un podcast, c'est de la pub, puis on va chiller, puis tu commences à connaître du monde. Là, ça marche meilleur, je pense.
Oui, absolument. Ouais. Mais moi, je le faisais, le café, là, de dire à du monde, hey, je te connais pas, mais à chaque fois que je te croise, genre, j'ai du fun à jaser, je te trouve le fun, ça te tente-tu qu'on aille prendre un café?
Si t'as déjà croisé la personne, mais pour moi, des fois, j'invite des gens que je connaissais pas avant, c'est difficile.
Ouais.
Je suis grec, moi, j'adore ça. Je peux rester avec un café, moi puis toi, pendant 5 heures.
Ouais.
Alors, c'est pas un problème, c'est juste de demander à quelqu'un que tu connais pas, et viens prendre un café, ils vont dire comme, c'est bizarre, on va commencer avec le podcast, bro.
Je l'ai fait avec un auteur en humour que je connaissais pas, que j'ai juste vu sur Facebook, j'avais jamais parlé, puis j'ai juste écrit à un moment donné, tu me fais vraiment rire. Je te connais pas, mais genre, tu me fais fucking rire.
J'appelle la police!
On peut-tu aller prendre un café, genre? Puis il a fait oui, puis on est devenus des meilleurs amis, là.
Ah ouais, c'est qui ça?
Sébastien Mathieu.
Look at that.
C'est un de mes meilleurs chums, c'est un writer extraordinaire, c'est un gars qui est drôle, là. Genre, il est dans sa bulle, puis
oh, ouais?
un brain, là, mais comme à sa manière, là. Tu sais, quelqu'un qui a ses propres running gags à lui,
ouais.
Dans la vie de tous les jours, puis que tu catches ou tu catches pas, il s'en calisse. Ça, là,
like
cette indépendance-là, là, c'est magique, là.
Puis c'est juste à cause de ton message, t'as dit, hey, mais je te trouve ouais. Drôle.
J'ai fait, tu me fais rire, genre, ça te tente-tu qu'on aille prendre un café?
Mais tu vois comment on est bizarre, les humoristes?
De?
C'est pas bizarre, ça, parce que moi aussi, si je vois quelqu'un qui me fait rire, c'est comme une connexion instantanée. Si quelqu'un me fait rire, je l'aime.
Ouais. Ah!
C'est juste ça que tu as besoin. Mais avec du monde normal, s'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Même si tu les fais rire, ils vont oublier les rires. C'est vrai, parce qu'ils t'aiment pas. Mais nous, si quelqu'un me fait rire, OK, je peux laisser plein de choses. Je veux devenir ami avec eux.
Ouais, mais le rire, ouais. C'est parce que le rire touche à tellement de fondements de ton identité. Tu sais, c'est une réflexion de tes valeurs, de ton éducation, de genre d'où tu viens. C'est comme. Le rire, tu sais, pour que tu provoques le rire, il y a plein d'informations dans le rire de quelqu'un.
Ouais.
Pour apprendre à la connaître, cette personne-là. Fait que quand tu vois le style de blague qu'elle a fait,
c'est le même que toi, tu as déjà la connexion. Ouais.
Tu fais OK. Fait qu'on voit la même chose sur telle affaire où tu traites une information de cette façon-là. Ça veut dire qu'il y a un peu de cynisme qui est présent, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Je connais pas tout le reste, mais il y a des bases assez solides pour que je fasse ça m'intéresse de te parler. T'sais.
Puis je pense pour nous, c'est plus facile parce que, comme je te dis, des fois, je suis dans un open mic, je vois quelqu'un, il fait ses jokes. Puis même s'il ne publierait pas des fois, moi, je lis si c'est quelque chose que j'aime. Puis après, je peux parler. Après, je dis comme « fuck, mais ça, c'était une bonne joke.
Ouais. »
Parce que ça m'arrive plein de fois que je vais aux open mic en français, puis je vois des bons gags, puis les gens ne rient pas assez. Alors, si c'est quelqu'un de nouveau, je leur parle à chaque fois. Je dis « Hey, écoute, ça, c'était fucking bon.
Ah, »
Ouais. Fais la même chose une autre soir avec d'autres mondes. Ils vont fucking dire « Ne deviens pas comme désespéré à cause de ça. » C'est fucking bon.
Je suis pareil. Moi, j'aime les jokes. J'aime ouais. Les idées. Je suis le gars qui se crée le plus de compétition. Là. Genre, le nombre de gens que j'encourage à
ouais, commencer. Moi, j'encourage beaucoup de monde. Ouais, ouais,
fais-le, man. Puis genre, ils ont des idées. Puis j'ai fait beaucoup de coaching pendant la pandémie. Là. Genre, des open micers qui m'écrivaient puis on passait 2 heures en Zoom sur leur texte. Là.
Okay.
Puis j'ai découvert plein de gens que j'étais comme, ça, c'est super drôle. C'est super bon. Du monde qui n'avait jamais fait de stage ou du monde qui en avait fait un peu.
Mais ils l'ont dans l'ADN.
Tout le monde a un point de vue. Parce que tout le monde est quelqu'un qui a un point de vue.
Mais pas tout le monde est drôle.
Non, mais tout le monde a un point de vue intéressant,
ouais.
Un minimum. À ouais. Partir de là, es-tu capable de prendre, de catcher la technique puis de le rendre drôle? Là,
si
c'est le
oui,
défi.
Ah.
Mais tout le monde est capable d'être intéressant, je suis ouais. Sûr et certain. Ça, j'y crois, c'est pour ça que mon podcast, c'est ça que j'aime faire. Je pense que n'importe qui est intéressant, s'il est passionné, il va être passionnant.
Ouais.
Tu prends le temps d'y jaser, puis tu lui poses des bonnes questions, puis tu l'écoutes. Man, genre, tu peux apprendre quelque chose de n'importe qui. Là,
ouais.
Fait que c'est pour ça que pour l'humour, c'est intéressant. La vérité plus du style. Il y a des vérités. Ces gens-là ont des vérités que moi, j'ai pas parce qu'ils n'ont pas la vie que j'ai. Puis là, ben, c'est juste le style de qu'est-ce que tu veux faire. Ça se raffine et ça se pratique. Là, mais...
Fuck, c'est cool que tu le vois comme ça parce que moi aussi, je le vois un peu comme ça. Puis je suis heureux de voir que tu coaches du monde, tu motives du monde parce que moi, je fais la même chose. Dès que j'ai la chance, je vois quelqu'un qui a juste besoin de la motivation, j'essaie de lui donner.
Ouais.
Parce que je dis, ah, il manque juste ça.
Ouais, c'est la confiance.
Puis des fois, ils ne savent pas, tu dois leur dire parce que tu es comme, je ne comprends pas comment tu n'as pas de confiance. Tu es bon, tu es vraiment bon. Alors, j'aime ça quand il y a quelque chose que je motive quelqu'un, puis après, il me dit, dans quelques mois, il m'envoie un message. Hey man, merci de me dire. Je dis, fuck, thank God. Parce que sinon, si moi, j'avais rien dit, peut-être on aurait perdu ce style de l'humour-là, ce humoriste-là, exact. À cause qu'il n'y avait pas de la confiance de continuer. Tu as besoin de dire la vérité quand quelqu'un est bon.
Oui, mais ça demeure ta vérité. Mais tu sais, si tu as une certaine crédibilité pour cette personne-là, tu as tout intérêt à y dire.
Ouais.
Moi, j'aime le médium, puis ça aide tout le monde que l'humour soit bon. Fait que si tu trouves ça bon, tu es comme, je vais encourager. Puis tu sais, c'est d'être réaliste aussi, puis de ne pas bullshitter, de bien le faire. Ouais. Puis tu sais, moi, quand j'ai commencé, il y a du monde qui ont fait ça avec moi, qui ont été super cool.
Moi aussi.
Fait que tu sais, les Étienne Dano, c'est dans les premiers qui ont été là.
Qui l'a dit encouragé,
puis qui m'a fait comme, ah man, qui m'a invité sur des shows. Puis. Alors qu'il n'y avait absolument rien à gagner. Là.
Ouais, ouais, non, non.
Il
n'y
avait rien à obtenir de faire ça. C'était...
Comme Mike avec moi. Mike n'avait rien à obtenir avec moi.
Mike, pour moi, c'est un des dieux de ça, là, de la générosité pure. Ouais. Genre, j'ai plein d'exemples de ce que Mike a fait pour moi d'un point de vue générosité. C'est juste genre une personne incroyable. Mm-hmm. Puis je l'ai vu faire des trucs pour d'autres gens. Genre, c'est ce genre de gars-là. Mais tu sais, ils n'ont rien à obtenir de nous. Là. C'est par pur don de soi. Là. Puis ça a fait une différence énorme pour moi à ce moment-là dans ma carrière. Une discussion d'une heure et demie que j'ai eue avec Philippe Laprise après mon deuxième show, qui m'explique c'est quoi un rieur aveugle. Je savais pas c'était quoi. Puis il m'explique le procédé humoristique. Puis après ça, j'écrivais juste ça parce que là, j'avais un truc du mot. Fait que là, j'écrivais juste ça. T'sais. Mais il a pris le temps de le faire. Il n'était pas obligé. J'étais un petit coun dans un bar qu'il connaissait pas. Fait que tu sais, tu te dis, si ça, je sais l'importance que ça peut avoir. Fait que si je sais que lui fait une erreur que moi j'ai déjà faite puis que je peux y sauver du temps, je vais dire, si ça tente pas de m'écouter, écoute-moi pas, là. Mais genre, moi, voici l'erreur que j'ai déjà faite. Je pensais que ça, j'avais pas confiance en moi pour telle raison par rapport à ça. À un moment donné, j'ai catché que c'était de la bullshit parce que telle raison. Fait que si ça s'applique puis tu peux genre voir de quoi là-dedans qui va te sauver du temps, prends-les, là. Genre, tu vas j'avancer plus vite, là. Mais moi, genre, t'es mille fois meilleur que j'étais la première fois que je montais sur un stage. Là. Fait que pour vrai,
continue.
Tu devrais continuer. Là. Genre, lâche pas ça. Là. T'es intéressant, t'es smart. Puis c'est d'être précis aussi. Là.
Ouais, ouais.
T'sais, pour prouver que tu cares pour vrai, puis c'est pas juste comme, hey, good job, tapes l'épaule, puis tu t'en vas.
Non. Moi, je parle juste si j'ai quelque chose à dire.
Ouais, moi aussi.
Sinon, c'est juste.
Non, je fais mon pacing.
Ouais, exactement.
Sinon,
je regarde.
Je suis en train de checker mon pacing puis d'écouter mon set.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de talent pour le futur parce que j'en ai vu plein de monde aux open mic qui sont vraiment drôles.
Ah oui.
Alors je pense que. Parce qu'ils ne font pas les mêmes erreurs des fois à cause des gens comme Mike, comme nous, qui leur disent perds pas ton temps avec ça. Je te dis, j'ai fait la même erreur. Alors eux, ils ont moins de détours.
Ouais.
Alors à cause de ça, ils vont devenir meilleurs. C'est comme les joueurs de hockey d'aujourd'hui, ils sont vraiment beaucoup meilleurs que les joueurs avant. Alors, c'est ça qui arrive avec nos stand-up. Alors, je pense que la prochaine génération va être vraiment, vraiment forte.
Ah, moi aussi. Mais moi, je fais attention de ne pas imposer un conseil dans le sens où si on ne me le demande pas, je ne le donne pas. Ça, je trouve que c'est un peu égomaniaque. Là,
D'aller à quelqu'un et tu devrais faire ça.
Exact.
Non,
ça, j'aime
moi,
pas
je
ça
déteste
ça.
Quand le monde font ça à moi.
C'est ça, moi aussi. Mais ça va être de.
Quelqu'un m'a fait ça, ça fait deux semaines.
Ouais, c'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui s'essaye. Ouais. Puis c'est correct, dans le fond. T'sais. Mais. Faire un compliment, je ne me retiens jamais de faire un compliment. Puis si la personne me répond, puis questionne, puis commence à. Là, je vais me permettre.
Là, tu commences, ouais, exactement. Ouais.
Mais sinon, c'est comme ça, c'était super drôle, je t'ai jamais vu de ma vie. Cette phrase-là, je suis jaloux de cette idée-là, elle est vraiment bonne.
Ouais.
That's it, là. T'sais.
Ben, fuck, bébé, merci d'être venu au podcast.
Ça me fait plaisir, man.
C'est sûr que tu vas revenir, puis tu vas venir au studio. On va faire une fucking bon podcast là-bas.
Avec plaisir, ça s'est fait tout seul, hein?
Ouais, puis c'est fun que t'es venu. Je suis vraiment heureux de t'avoir invité puis que t'as accepté.
Ben,
puis,
moi, je voulais vraiment venir. Tu veux-tu venir au Carré de Sable?
Oh, ouais, quand est-ce que tu veux, juste dis-moi.
Parfait, je t'écris puis on va citer ça.
Nice!
Merci, man.
Pébé Rivard!